France Inter.
Vous écoutez France Inter, nous sommes le vendredi 17 octobre 2025 et il est 5h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin au programme du 5-6 de France Inter, de l'actualité, de la musique, des chroniques et des surprises. Un autre festival de Cannes est dans les chroniques littorales, vous verrez. Tanguy Pastureau tente de nous faire rire avec Victoria Beckham, la femme qui ne sourit jamais. Le grand reportage nous emmène dans les Ardennes, où les habitants sont forcés de boire de l'eau en bouteille car celle du robinet est contaminée au PFAS. Dans le 5-6 aussi, notre invitée déjà debout est aidante, elle nous fera partager son quotidien. Des chaînes et des fouets pour nous réveiller, la proposition du duo de rappeurs Clips dans la playlist. Et puis Café Philo, justement consacré à la surprise, un sujet trop peu traité par les philosophes. Voilà, vous avez le programme et je vous accompagne jusqu'à 9h.
France Inter.
Et ça commence avec le journal de Lucas Nitsch. Bonjour Lucas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Sébastien Lecornu échappe à la censure, mais à quel prix ?
Le Premier ministre reste en place grâce au soutien des députés républicains et des socialistes, mais il a fallu pour cela accepter de suspendre la réforme des retraites et ça fait grimacer le camp présidentiel. C'est douloureux pour nous tous, a affirmé Emmanuel Macron hier soir, selon un participant à une réunion entre le chef de l'État et des cadres de son parti à l'Élysée. Le socle commun, lui, continue de se diviser. Édouard Philippe persiste et si une démission d'Emmanuel Macron et l'organisation d'une nouvelle présidentielle serait la seule décision digne pour éviter la crise politique. Déclaration de l'ancien Premier ministre hier soir sur France 2 qui souhaiterait que ce départ se fasse après l'adoption du budget.
Ça n'est pas du tout parce qu'il est impopulaire qu'il devrait, à mon avis, penser à un départ ordonné. C'est parce que plus rien ne peut se faire aujourd'hui et que plus rien ne se fait. Et donc, il me semble, comme il est le chef de l'État, comme il a été investi par les Français d'une responsabilité exceptionnellement lourde et difficile, qu'il devrait, peut-être en prenant exemple sur des prédécesseurs, et notamment le général de Gaulle, essayer d'organiser un départ qui nous évite, pendant 18 mois, de continuer à vivre dans cette situation de blocage, d'instabilité, d'indétermination. Ça n'est pas simplement une crise politique à l'Assemblée nationale à laquelle nous assistons. C'est une crise très profonde sur l'autorité de l'État, sur la légitimité des institutions. Et il me semble que le chef de l'État a une responsabilité éminente de garant des institutions.
Édouard Philippe sur France 2 hier. L'heure de l'intime conviction pour les jurés de la cour d'assises du Tarn à Albi au procès de Cédric Jubilard, accusé d'avoir tué sa femme Delphine en décembre 2020. Le verdict est attendu aujourd'hui. Les avocats généraux ont requis mercredi 30 ans de prison. Hier, les avocats de l'accusé ont plaidé l'acquittement. Ils ont dénoncé un cirque judiciaire et un acharnement médiatique. Aux assises de Paris, cette fois-ci, s'ouvre aujourd'hui le procès de la meurtrière présumée de Lola, adolescente de 12 ans, tuée en octobre 2020. Dans son immeuble du 19e arrondissement de la capitale. Dabia Benkired, l'accusée, âgée aujourd'hui de 27 ans, comparée aussi pour viol et actes de torture et de barbarie. 16 000 postes supprimés chez Nestlé. Le groupe va se séparer d'environ 6% de ses salariés. Nestlé secoué ces derniers mois par les scandales concernant ses eaux en bouteilles polluées et par l'inflation qui a réduit le nombre de consommateurs.
Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison Blanche aujourd'hui.
Le président ukrainien vient notamment demander à Donald Trump des missiles à longue portée Tomahawk, mais avant même que son avion n'atterrisse aux États-Unis cette nuit, le président américain a pris tout le monde de court. Il rencontrera Vladimir Poutine dans les deux prochaines semaines à Budapest, en Hongrie. Deuxième rencontre en moins de 3 mois. Donald Trump s'est entretenu hier soir avec son homologue russe par téléphone. Il a bon espoir de, je cite, mettre fin à cette guerre sans gloire. Le locataire de la Maison Blanche qui essuie un nouveau revers de la part de la justice dans son pays. Une cour d'appel confirme cette nuit la suspension du déploiement de la garde nationale à Chicago. Le président américain avait voulu y envoyer l'armée alors que des manifestations ont lieu dans la ville contre sa politique migratoire. Il a invoqué un risque de rébellion, mais la justice estime que ce risque est, je cite, non fiable. À Madagascar, il va être officiellement désigné nouveau dirigeant de l'île aujourd'hui, après la fuite en début de semaine du président Andry Rajoelina. Le colonel Michael Rangianirine, que tous appellent désormais président, va être investi dans quelques heures. Il s'est engagé à piloter une transition vers un pouvoir civil d'ici à 2 ans. Hier, il a passé la journée au Cap Sat, son unité militaire, pour consulter la population. Encore inconnu il y a 5 jours, des centaines de personnes ont attendu des heures pour le voir. Reportage Sarah Teto.
Béret vert sur le crâne, sourire vissé au visage, le colonel de 51 ans, aux origines modestes, inspire la confiance. Face aux médias, l'ancien commandant de bataillon de Tuléar l'affirme.
J'ai pas pris le pouvoir, on m'a donné le pouvoir.
On m'a transféré le pouvoir.
La nuance est importante. Loin de lui, l'envie d'être considéré comme le putschiste qui a provoqué la chute d'un autre putschiste avant lui, Andrzej Zweld. Depuis 48 heures, l'officier reçoit, consulte et écoute beaucoup. En pleurs, cette mère de famille réclame la grâce pour son mari qui a été emprisonné sans procès pour des faits de vol de carburant, dit-elle.
On est fiers.
Chevelure tressée des grandes occasions, cette femme Antanjoy, originaire du même Grand Sud que le colonel Ranjanirin, a traversé le pays pour porter son soutien à celui qui a été gouverneur de sa région.
J'ai mis 3 jours pour le taxi brousse pour venir à Tananarive pour me féliciter, président Michael, le chef d'État.
Mais le parcours du militaire n'est pas sans quelques zones d'ombre. Arrêté en 2023, emprisonné pour atteinte à la sûreté de l'État, puis relâché, son CV comporte 2 années vides qu'il n'a pas voulu commenter. On le dit proche des Russes. Hier encore, il est allé saluer l'ambassadeur de Russie, seule chancellerie à avoir bénéficié d'une telle visite. Incarnera-t-il le renouveau national que les Malgaches attendent tant ? Réponse sous peu. Antananarivo, Sarah Teto, RFI pour France Inter.
Au Moyen-Orient, le Hamas réaffirme cette nuit vouloir tout faire pour maintenir la paix et honorer l'accord de cessez-le-feu qui prévoyait le retour des otages vivants en Israël, mais aussi le retour des dépouilles, sauf qu'il en manque toujours 19. La Turquie, qui avait joué le rôle de médiateur, veut envoyer des secouristes à Gaza pour aider le mouvement islamiste à chercher les corps des otages décédés.
En France, la statue de la Bonne Mère à Marseille va retrouver sa couronne ce matin.
Après 9 semaines de rénovation, c'est le jour J. L'opération s'annonce très délicate, il va falloir élitreuiller cet objet de 150 kg et 1,50 m de diamètre. Une équipe spécialisée va s'en charger. Écoutez Éric Préty, le directeur des travaux pour SAF Hélicoptère. Il explique au micro de Ici Provence les difficultés d'une telle opération.
Ils ne sont pas très nombreux en France à avoir ce niveau d'expertise. Ça se passe quasiment au millimètre. Les éléments extérieurs font partie des difficultés, le vent particulièrement. Il faut imaginer que les yeux du pilote sont à au minimum 80 mètres de la charge. Donc il a une visualisation assez précise de son positionnement au-dessus de la charge. Par contre, la hauteur qui sépare la charge de là où elle doit être posée, il ne peut pas l'apprécier parce qu'il est trop loin. Et c'est là que le travail des assistants de vol qui guide le pilote est essentiel.
Et si vous êtes à Marseille ou dans les environs, rendez-vous sur place à partir de 8h si vous voulez assister à l'opération. Attention quand même, un périmètre de sécurité sera installé autour de la colline de Notre-Dame de la Garde. Et puis en foot, 2e journée de la Ligue des Champions féminine hier soir et le PSG à nouveau battu. Les Parisiennes ont dû s'incliner face au Real Madrid, score final 2-1. La semaine dernière, elles avaient déjà perdu 4-0 contre les Allemandes de Wolfsburg.
C'était le journal de Luca Nitsch, il est 5h07 sur France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Vous nous annoncez du beau temps, Élodie Calac.
Un temps calme mais parfois gris ce matin. Le soleil doit composer avec nuages bas et brouillard. Il domine largement de la Normandie vers les Hauts-de-France, le nord de la région parisienne et le Grand Est, mais aussi du Berry vers le Val-de-Saône, le nord de l'Auvergne et le Lyonnais. Des grisailles présentes aussi sur le sud de l'Aquitaine et sur l'ouest du Languedoc-Roussillon. C'est assez frais avec 2 à 8 degrés sur l'est et le massif central, 6 à 10 ailleurs, jusqu'à 16 sur le sud-est. Cet après-midi, les nuages vont garder l'avantage sur le Nord-Pas-de-Calais. Ça ira mieux de la Haute-Normandie vers l'Alsace, les éclaircies deviendront belles. Ailleurs, beaucoup de soleil, peut-être quelques grisailles tenaces vers le Val-de-Saône et puis un risque d'averse sur les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. Les températures seront proches des moyennes de saison cet après-midi avec 14 degrés à Metz et à Lyon, 15 à Cambrai, à Dijon, 17 à Cabourg, Paris, Angers et Nevers, 18 à Rennes, 22 degrés à Nice et à Sète, 23 à Bordeaux, à Toulouse et 24 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France, il est 5h08.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
À suivre sur France Inter, un festival de Cannes où les stars sont des yachts. Présentation dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout, Esther Rosenberg, est aidante. Elle nous racontera sa vie au quotidien. Comment la virginité est devenue un sujet crucial sur les réseaux, c'est dans la chronique d'où ça sort. Et l'humour de Tanguy Pastureau nous attend à 5h25. Mais juste avant de prendre la mer, donc avec les chroniques littorales, direction l'appartement de Steve Ibrahim, un jeune artiste qui chante donc le mur du salon. Bon réveil.
Il y a un trou dans le mur du salon. Il a la forme de la main de mon frère. Je crois que mon père veut le laisser là. Il veut nous donner une leçon. Oui, crois-moi, c'est plus fort que les mots. Qu'on ne se dit plus à la maison. C'est beaucoup plus dur pour oublier un trou au milieu du salon. On joue au foot dans la cuisine, on garde le chat de la voisine. À 13 ans, on ne sait pas dire ce qu'on ressent. On casse les murs pour passer le temps, pour voir la lumière de dehors, pour voir si le soleil brûle encore. Le soleil ne rentre que chez le voisin. Peut-être qu'il nous trouvera demain. Un jour ou l'autre, on viendra. Un jour ou l'autre, on comprendra. Pour l'instant, je n'arrive même pas à te prendre dans mes bras. Y'a un trou dans le mur du salon. Il a la forme de la main de mon frère. Je crois que mon père veut le laisser là. Il veut nous donner une leçon. Oui, crois-moi, c'est plus fort que les mots. Qu'on ne se dit plus à la maison. C'est beaucoup plus dur pour oublier un trou au milieu du salon. D'avoir un enfant, on fera tomber la pluie pour lui. Aujourd'hui on pleure, on sourit.
Je veux qu'on s'aime jusqu'à l'infini.
Je sais qu'un jour il va marcher. Il aura besoin de place pour tomber. Je crois qu'on a trouvé une bonne raison pour casser le mur du salon. Un jour ou l'autre on viendra. Un jour ou l'autre on prendra. Pour l'instant je n'arrive de la main de mon frère. Je crois que mon père veut le laisser là. Il veut nous donner une leçon. Oui, crois-moi, c'est plus fort que les mots. Qu'on ne se dit plus à la maison. C'est beaucoup plus dur pour oublier un trou au milieu du salon. J'ai toujours voulu monter sur le toit, toucher les étoiles du bout de mes doigts. Mais cette nuit, cette nuit, elles sont descendues juste pour moi. J'ai toujours voulu monter sur le toit, toucher les étoiles du bout de mes doigts. Mais cette nuit, elles sont descendues juste pour moi.
Steve Ibrahim, le mur du salon, dernier single sorti le mois dernier et en playlist France Inter, 5h12 sur France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et ce matin, vous nous présentez une mérienne de salon.
En la personne, Marion, de Sylvie Ernoux. Alors, dans le monde de la plaisance, on connaît Sylvie Ernoux. Hein, c'est la directrice du salon Cannes Yachting Festival. C'est le festival de Cannes, mais là, c'est pour la plaisance. Bonjour Sylvie Ernoux.
Bonjour.
Sylvie Ernoux, ça fait 13 ans déjà.
Que je m'occupe du salon, oui,
ah,
13
oui.
ans.
Avant, vous êtes toujours resté dans le maritime. Avant, c'était Le Havre, c'était la construction des paquebots.
Oui, toute mon enfance, c'était Le Havre, parce que j'ai grandi à 5 mètres de la mer. Je voyais le France, d'ailleurs, quand j'étais gamine. Et puis après, au Havre, à l'époque, il y avait deux écoles, l'école d'infirmière et l'école de la marine marchande. Donc, toute ma génération et tous mes amis que j'ai encore aujourd'hui sont tous des marins, enfin pour beaucoup, puisqu'ils ont tous fait la marine marchande. Donc j'ai vraiment grandi dans un milieu de marins. Et puis ensuite, après des études un peu étrangères, je suis revenu au Havre parce que un grand armateur havrais m'a proposé de revenir pour moderniser sa flotte, sa construction maritime, différentes fonctions très spécifiques et techniques sur les gros bateaux et évolution des techniques maritimes. Voilà.
Oserais-je dire que vous êtes une des premières femmes à avoir travaillé dans le monde maritime ?
Première, je sais pas, parce que
une des premières.
Oui, oui, sûrement. Je me souviens quand on allait voir sur les pétroliers Harzeux et on monter à l'échelle, j'avais un peu la trouille d'ailleurs, à l'échelle du pilote sur les pétroliers, mais je pense que les hommes qui bossaient avec moi avaient aussi un peu peur. Mais c'était très agréable d'être une femme avec les hommes, parce qu'en fait, c'est souvent le cas, pas toujours, mais la différence, la singularité, les choses sont un peu différentes, ben ils sont tous gentils. J'arrivais à bord pour contrôler leur cargaison, pour les embêter avec des nouveaux outils. J'avais pas toujours un job très sympa en contenu. Ben, quand vous étiez une femme, jeune et dynamique, parce que c'était le cas à l'époque, l'époque, bah, c'est vrai que ça faisait bien mieux passer la pilule et qu'on passait des bons moments. Et donc, j'ai toujours eu la chance. Je sais que ça n'a pas été le cas de toutes les femmes et on connaît l'histoire des femmes dans les milieux masculins, professionnels. Mais moi, personnellement, j'ai toujours vécu ça comme un sujet positif et aidant d'être une femme parmi les hommes.
Ouais, il faut dire aujourd'hui, c'est un milieu qui est devenu très, très féminin et on le voit au commandement de passerelle, hein. Quand il y a un homme et une femme, c'est un plus, c'est une belle complémentarité.
Bien sûr.
Et le Cagnotting Festival, ça c'est votre bébé.
Ça c'est mon vrai bébé, oui, ouais. Parce que je l'ai pris il y a 13 ans. Je suis arrivée, je ne connaissais rien de l'événementiel. Et tous mes collègues que j'ai retrouvés à ce moment-là, ils étaient tous dans les métiers depuis 10, 15 ans. Ils organisaient plein de salons et moi je n'avais aucune idée. Et donc je suis arrivée, j'ai un peu découvert ce monde de l'organisation. Alors là, un monde très féminin. Et en fait, quels que soient les métiers, je me suis aperçue qu'il y a la même passion. Il y a la même constance qu'on a tous, que ce soit un skipper d'un grand yacht, que ce soit même un skipper de voilier, que ce soit les capitaines ou les commandants quand j'étais sur les gros cargos ou les gros paquebots. C'est la même chose. Et ça, je pense, c'est pour ça que j'aime ce métier et j'aime le maritime, parce que j'ai toujours partagé ça avec les marins, quels qu'ils soient.
Hommes et femmes, ce sont tous des marins.
Exactement. C'est exactement.
Ça, hein. Et l'avenir, Sylvie ?
Bah écoutez, moi l'avenir, je vais larguer les amarres dans 6 mois. Je viens de finir mon dernier salon qui a été un super succès. Donc c'est toujours très sympa de finir par un succès. Et après, bah, je vais partir au large.
Dites-moi Sylvie Arnoux, la femme des cargos, des pétroliers, des voiliers de la plaisance, qu'est-ce que c'est la mer pour vous ?
La mer, c'est la mer. C'est la liberté, c'est le partage de cet amour d'être sur l'eau et c'est vraiment l'évasion. Quand j'étais dans les grandes villes, je revenais tout le temps voir mes parents en Normandie au bord de l'eau. Mais la mer, c'est juste ce bruit pour s'endormir et c'est juste le plaisir d'aller faire un tour sur l'eau, même avec un petit bateau pique-niquer le dimanche midi et rentrer après au port. Ça suffit pour avoir cet esprit de la mer.
Ouais. Et respirer un coup de varech.
Et respirer un coup de varech, comme vous dites, oui, tout à fait.
Merci à vous Sylvie Arnoux. Donc, un site internet... cannesyachtingfestival.com. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin, elles parlent d'un sursis et de possibles condamnations. Le sursis, c'est celui de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, échappe à la censure mais reste sous la menace du PS, analyse le Figaro. Il est question de sursis à l'Assemblée et de la grande bataille du budget. Le budget de Bayrou, empire. Empire s'étale en majuscule, en une de l'Humanité. Il barre une photo du chef du gouvernement au micro devant les députés. Passé à 18 voix de la censure, Lecornu met sur la table un plan d'austérité draconien, estime le quotidien. On en reparlera à 7h50 dans le débat écho de ce coup de la suspension de la réforme des retraites. Les échos font un gros plan, en tout cas sur les niches fiscales dans le viseur, un des nombreux avantages fiscaux ciblés pour dégager des recettes, explique le quotidien écho. Censure rejeté, Lecornu prend du sursis. Encore cette métaphore dans une colonne de Une du Parisien, qui lui se concentre surtout sur le meurtre de Lola, 12 ans, en octobre 2022. L'accusé comparé à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises et le quotidien francilien nous montre un portrait de la petite fille éclairée par une bougie. C'est un autre procès qui occupe la Une de Libé, verdict du procès jubilard lors de l'intime conviction. Gros plan sur le visage de celui qui est accusé d'avoir tué sa femme Delphine en 2020. Il risque 30 ans de prison. Décision attendue donc aujourd'hui. La même photo, en plus grand, apparaît aussi en Une du Figaro. Après 4 semaines de procès, l'heure du verdict, calcule le journal. C'est la reprise pour le championnat de foot français et c'est dans l'équipe. Elle s'annonce de haute volée, tonne le journal avec ce duel Strasbourg-PSG. Et puis il y a de la musique aussi en une de vos journaux. La Starac est de retour. TV Magazine nous promet les secrets d'un succès. Et John Baptiste, un air de génie, titre des Echo Magazine. Sur le musicien phénomène des États-Unis qui réunit classique, jazz et pop. 5h18. La virginité comme nouveau phénomène sur les réseaux sociaux. C'était le thème de Zoom Zoom Zen hier, l'émission de Mathieu Noël et son équipe. Et comme toujours, on se tourne vers Cyril Lacarrière. La virginité, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez une idée qu'on ne peut ni voir, ni mesurer, une idée qui a traversé les millénaires, les religions et les guerres, une idée capable de décider du destin d'une femme, d'un mariage, d'une réputation. Cette idée, c'est la virginité. Le mot vient du latin virgo et au départ, ça ne parlait pas de sexualité, mais c'était un sujet d'état civil. C'était une femme, une jeune femme non mariée. Et puis le sens évolue, virgo devient le symbole d'un certain idéal, celui de la pureté et de l'innocence, de la femme préservée. Et les exemples anciens ne manquent pas. Les vestales, les prêtresses de la Rome antique devait rester vierge pour garantir la protection de Rome. Dans la Bible, la virginité de Marie devient le modèle suprême de la sainteté féminine. Et c'est comme ça qu'au fil des siècles, le corps des femmes devient un territoire à surveiller, avec pour frontière un simple bout de peau, l'hymen.
Et sauf que depuis, la science a montré qu'un hymen peut être là comme pas là, et même rester intact après un rapport sexuel.
Oui, mais ça, c'est récent. Et entre-temps, des milliers de femmes ont été jugées, répudiées, humiliées à cause de cette fine membrane. Aujourd'hui encore, plus de 20 pays pratiquent des tests de virginité. Jusqu'à il y a 15 ans, en France, il arrivait qu'on demande des certificats de virginité avant un mariage religieux. Sur TikTok ou Instagram, la virginité est revenue à la mode, on va en parler, à coups de hashtags comme Purity Culture ou Virginity Pledge, des serments de chasteté popularisés sur les réseaux sociaux. Heureusement, d'autres rappellent que la virginité n'est pas seulement un état du corps, mais aussi une emprise du pouvoir masculin. Alors, d'où ça sort la virginité ? Eh bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Ils reviennent à 16h cet après-midi. Il sera question entre autres de post-réalité avec notre chroniqueur du vendredi, le sociologue professeur à Sorbonne Université, Gérald Brunner, qui revient donc à 7h20 pour sa chronique Raison gardée. 5h20 sur France Inter. Dans un instant, Tanguy Pastureau nous parlera d'une Spice Girl, mais tout de suite d'autres filles britanniques au rock épicé. C'est Wet Leg qui chante Mange tout. C'était Mange tout de Wet Leg, titre de leur dernier album Moisturizer. Elles seront en concert le 30 octobre à l'Olympia à Paris et le 11 novembre au Luxembourg.
France Inter.
À 5h24, Tanguy Pastureau maltraite l'info, mais surtout un sourire très rare sur Netflix.
Netflix, je me suis lassé, mais l'autre jour, je l'ai quand même ouvert. Alors, j'arrive sur la page d'accueil qui est personnalisée. Moi qui suis plus ringard qu'un collier à dents de requin, comme proposition, j'avais Belphégor, l'inspecteur Morse et Rex, chien flic. J'étais parti pour lancer Rex parce que j'adore le concept du chien flic. Un des agents que tu payes en croquettes, bah déjà, ça soulage un budget. Sébastien Lecornu devrait y penser. Et même pour les pompiers, j'ai vu ce que faisaient les chiots de la patte patrouille. Je crois pas que ce soit des effets spéciaux. Hein. Et bah, deux caniches, ils t'éteignent un hôtel de ville, tu vois, qui prend feu. Puis soudain, sur Netflix, j'ai vu en haut de l'écran une vignette disant qu'il y avait un documentaire sur Victoria Beckham. Et moi, j'adore aller vers des trucs qui me sont étrangers. Moi, je connais rien Victoria Beckham. Comme tous les mélomanes, j'ai bien sûr profondément méprisé l'Espace Girl. Mais c'est tout. Donc, je démarre le truc. Et en fait, c'est mieux que les séries espagnoles où des personnes sur la brèche font l'amour en plein braquage de la plus grosse banque de la ville. Parce que les Espagnols, plus le projet est gros, plus ils s'excitent. Tu les envoies hacker la BCE, ils font 4 gosses, quoi. C'est comme la série d'Arte en 45 épisodes Hegel et l'idéalisme allemand, mais avec plus de paillettes et moins de philosophie. Victoria raconte son parcours. Et à un moment, elle aborde la question de son sourire, qui est le grand absent de sa vie. Elle ne sourit jamais, c'est la Mathilde Panot des Anglais. H24, elle tire la tronche du pédophile que Google Maps aurait mené à un EHPAD au lieu de l'école. Et forcément, bah, je me suis un peu retrouvé parce que je ne suis pas le mec qui sourit le plus dans ce monde. Je crois qu'à moins sourire que moi en Île-de-France, ils sont deux et tous les deux sont morts depuis 3 ans. Hein, d'ailleurs, Emma Beaujean, voilà, la dame qui se rapproche le plus du mot teenage dans cette radio, m'a déjà comparé à un vampire. Non mais Daniel, c'est celui qui butine sa mère. Old Olaf, c'est Pascal Brutal avec ses bracelets de force. Moi, je suis Nosferatu, quoi. Ou Nosferavu, parce que je suis à cheval sur la politesse. En fait, cette jeune femme me trouve sinistre. C'est ça qu'elle veut dire en me traitant de vampire. Elle se doute bien que je vais pas me dissoudre si elle me fait bouffer du pain à l'ail. Et elle a pas tort, je suis comme ça, austère, sombre. Sur scène, il faut savoir que j'arrive dans un cercueil. Si je suis devenu humoriste, c'est à cause d'un conseiller d'orientation qui avait bu. J'étais en Bretagne, parce que j'étais fait, moi, pour les pompes funèbres. D'ailleurs, j'adore rédiger des éloges aux morts. Récemment, j'ai écrit un texte pour la carrière de François Bayrou. Et c'est vrai qu'il y a une vraie injonction au bonheur. Il faut sourire, être à fond, épanoui. Ouais. Je suis la meilleure version de moi-même. Mais moi, le matin, quand on me dit ça va, je réponds pas. Bah non, Adèle. Non, mon charisme fait que je traîne surtout avec des gens de la direction. Bah non, Adèle. J'ai dormi 3 heures cette nuit à cause de mes questionnements existentiels. Je suis pas bien, Adèle. Non, je réponds yes, ça va. Ouh, il est là, papa. J'essaye de donner le change. Et ce que dit Victoria, c'est qu'elle non plus n'est pas une femme souriante. Pourquoi ? Alors elle explique que sur les tapis rouges, au début, son mari David se tenait toujours à sa gauche, donc elle souriait du côté gauche, ce qui lui faisait une tête bizarre. Démonstration, auditeur à l'ancienne, la team TSF. Tu iras voir la vidéo sur YouTube et ça me fera des droits d'auteur en plus. Hein. Tu l'aimes ton pastu, bah tu rac. Démonstration, donc à ma gauche, il y a Mélodie Fontaine. Toute l'âme du Nord-Pas-de-Calais concentrée dans un petit corps de comédienne formidable. Bon, mettons que je l'aime bien. Si je lui souris et que je ne souhaite pas sourire à Emma Beaujean à ma droite qui me traite de vampire, ça donne ça. Voilà, alors très peu radiophonique ce moment, ouais. Hein, vous me direz, on dirait mes chroniques de d'habitude. Et Victoria Beckham s'est vite aperçue qu'elle avait l'air d'une conne. Elle dit que ça lui donnait l'air mal en point. Alors j'ai traduit par l'air d'une conne parce que je parle très bien anglais. Et si son mari avait été à sa droite, bah, ça aurait été le même problème de l'autre côté. En fait, il n'y a que s'ils avaient défilé sur le tapis rouge en faisant la chenille que ça lui aurait fait un sourire normal. Quoique, on sourit rarement derrière les gens. Je veux dire, dans les films UX, quand il y a une levrette, jamais le type n'arbore un sourire énorme. Il y aurait un côté malsain, ça, on serait mal à l'aise. On se dirait qu'il prépare une farce. Il va sortir une nappe, un pot de rillettes et se servir de la personne comme d'une tête sur tréteau, quoi. Tout ça pour vous dire que Victoria Beckham ne sourit plus. Alors, moi non plus, mais sans raison, parce que jamais je vais au Festival de Cannes avec David Beckham. Hein, ou alors, c'est qu'il aurait mis un truc puissant dans mon godet. Je vous conseille donc ce documentaire sur Victoria Beckham. Comparé à tout ce qu'il y a d'autre sur Netflix, franchement, c'est très, 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 très bien.
Tanguy Pastureau dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour Boudadi qui reçoivent tout à l'heure, à partir de midi, l'animateur de radio et de télé Laurent Mariotte pour son livre Une année en cuisine. On va se régaler dans une poignée de secondes, le journal.
Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, à faire triompher la révolution nationale et son idéal. SOL, debout !
Le régime de Vichy fut-il une dictature ?
France Inter, 14h, Stéphanie Duncan.
En juillet 1940, la France, par un coup d'État mené par Pétain et Laval, bascule en quelques jours de la démocratie à un régime autoritaire, liberticide et bientôt criminel. On en parle cette semaine avec l'historien Laurent Joly.
Le fil de l'histoire,
c'est tous les jours à 14h sur France Inter.
5h29 sur France Inter et voici Ali Badou qui vient de me rejoindre dans le studio pour nous donner un avant-goût du 6-9. Bonjour Ali.
Bonjour Marion. Avec
alors au programme.
Le programme du 6-9 à 6h20, votre invité sera Catherine Fournet-Guérin qui est professeure de géographie à la Sorbonne, spécialiste de Madagascar pour faire un point sur la situation très tendue, toujours sur place. À 8h moins le quart, quid du budget après la suspension de la réforme des retraites. Ce sera le sujet qui opposera Dominique Seux et Thomas Porcher à l'antenne d'Inter. Et à 8h20, grand entretien avec quelqu'un qu'on connaît bien à la maison, Christophe Galfard, le physicien producteur de l'émission Big Bang le samedi sur Inter. Et il publie La vie à portée de main, c'est passionnant, et le livre est publié aux éditions Albin Michel.
Merci Ali.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. France Inter, il est 5h30. Le journal Lucas Nitsch, bonjour Lucas.
Bonjour.
Un nouveau sommet prévu entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
C'est le genre de surprise dont le président américain a le secret. Donald Trump annonce qu'une nouvelle rencontre est prévue à Budapest dans les deux prochaines semaines, moins de trois mois après le sommet en Alaska. Et il a fait l'annonce alors que Volodymyr Zelensky était encore dans son avion pour les États-Unis. Il doit être reçu à la Maison-Blanche aujourd'hui. Le président ukrainien qui espère obtenir des missiles à longue portée Tomahawk aux États-Unis, le récit d'Isabelle Labéry.
En effet, c'est peut-être pour ne pas voir des Tomahawk tomber sur Moscou que Vladimir Poutine accepte de reprendre le dialogue. Kiev réclame ses missiles à longue portée depuis plus d'un an, mais ça ne fait que quelques semaines que Donald Trump s'en sert pour faire pression sur le président russe.
En fait, je lui ai dit, ça vous dérangerait si je donnais quelques milliers de Tomahawk à votre adversaire ? Je lui ai dit exactement comme ça. Il n'a pas aimé l'idée. Vraiment pas aimé.
Vladimir Poutine a d'ailleurs répondu qu'une telle livraison nuirait considérablement à la relation entre Moscou et Washington. Alors maintenant qu'il a obtenu le principe d'une rencontre, le président américain va-t-il donner satisfaction à Volodymyr Zelensky ? Ce n'est plus si sûr.
On a aussi besoin de Tomahawk pour les États-Unis. On en a beaucoup, mais on ne peut pas épuiser nos stocks. Ils sont très puissants, très précis, très bons. Mais on en a besoin, nous aussi. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire.
En arrivant à Washington hier soir, le président ukrainien s'est dit confiant. Il espère bénéficier de la dynamique engagée au Proche-Orient. Il saura très vite si le deal que cherche Donald Trump se fera à son détriment.
Après l'ancien directeur du FBI fin septembre, puis la procureure générale de New York la semaine dernière, c'est au tour de John Bolton, un ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, d'être inculpé cette nuit. Point commun de ces trois personnalités, elles sont toutes devenues des détracteurs du président américain et ont donc toutes été inculpées par la justice depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le locataire de la Maison-Blanche qui envisage enfin de mener des frappes terrestres sur le Venezuela. Le président américain a aussi approuvé des opérations de la CIA. Il se justifie en expliquant vouloir lutter contre le narcotrafic, mais le président vénézuélien Nicolas Maduro l'accuse de vouloir fomenter un coup d'État. Depuis début septembre, les États-Unis ont déjà mené 5 frappes dans les eaux internationales au large du pays. Des secouristes turcs vont être envoyés à Gaza pendant plusieurs semaines pour aider le Hamas à chercher les corps des otages décédés. Seuls 9 des 28 dépouilles ont été rendues à Israël. Le mouvement islamiste dit avoir rendu toutes celles qu'il avait pu retrouver, mais réaffirme cette nuit son engagement pour mettre en œuvre le plan de paix. Israël estime pour l'instant que ce plan n'est pas respecté et menace de reprendre les combats.
En France, l'heure du verdict aujourd'hui pour Cédric Jubilard.
Le doute peut-il l'emporter ? Les jurés doivent décider ou non de sa culpabilité. Au terme de 4 semaines d'audience dans l'affaire du meurtre de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines en décembre 2020, les avocats généraux avaient demandé 30 ans de réclusion criminelle mercredi, mais hier, les avocats de la Défense ont longuement plaidé l'acquittement et ont bousculé les certitudes de l'accusation Jean-Philippe Degnaud.
L'affaire semblait entendue des 3 premières semaines d'audience. L'accusé n'était plus ces derniers jours qu'un sale type qui avait toutes les raisons d'avoir fait disparaître celle qui allait le quitter, un classique du féminicide. Mais hier, la défense a consciencieusement réveillé l'esprit du doute qu'elle avait déjà instillé à plusieurs reprises en début de procès, en dressant la liste de plusieurs dizaines de bonnes raisons de croire que l'enquête n'était pas aussi évidente qu'il n'y paraît, que certaines expertises ne valaient rien, que certains témoignages se contredisaient, que les recherches avaient dès le début été orientées sur la culpabilité supposée de Cédric Jubilard. Une véritable chasse à cour s'est élevée maître Emmanuel Franck au terme d'une plaidoirie éblouissante. Les 6 jurés vont donc délibérer avec les 3 magistrats de la cour tout à l'heure et procéder au vote sur la culpabilité de Cédric Jubilard. 9 voix en tout, il en suffirait de 3 petites voix acquises au doute pour prononcer un acquittement.
Et Jean-Philippe Deniau reviendra sur ces 4 semaines d'audience à 6h42 dans le prétoire. Le rappeur Booba, au cœur de nouveaux ennuis judiciaires, déjà mis en examen pour cyberharcèlement contre l'influenceuse Magali Berda. Il sera aussi jugé en décembre pour injures racistes dans une autre affaire. Et il vient de passer 24 heures en garde à vue, cette fois-ci pour harcèlement et cyberharcèlement contre son rival Gims et sa compagne. Un juge doit encore décider d'une éventuelle mise en examen. Et puis après 9 semaines de rénovation, la statue de la Bonne Mère à Marseille va retrouver sa couronne ce matin. Elle va être posée par un hélicoptère. Un périmètre de sécurité sera installé dès 7h30 autour de la colline de Notre-Dame de la Garde.
C'était le journal de Lucas Nitsch. Bonne journée, allez vite vous coucher pour profiter ensuite de la météo clémente de ce vendredi. Journée calme malgré la grisaille ce matin de la Normandie aux Hauts-de-France et au Grand Est ainsi que sur les régions centrales. Quelques brouillards présents aussi ce matin du côté du Pays Basque. Cet après-midi, le soleil va s'imposer sous forme d'éclaircies ou plus largement. Quelques bruines sur les côtes de la mer du Nord, quelques nuages jusqu'à l'averse dans les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. Le thermomètre baisse légèrement de 3 à 15 degrés ce matin, de 14 à 25 cet après-midi. 14 à Lyon, Nancy et Clermont-Ferrand, 15 à Lille, 17 à Paris, 18 à Brest et Rennes, 20 à Perpignan, 21 à Limoges, 22 à Marseille, 23 à Bordeaux et Toulouse et 24 à Biarritz.
Le 5-6 sur France Inter.
Allez, on plonge nos oreilles dans la playlist de France Inter. Bonjour Mathieu Conquet.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous parlez d'un album énorme. C'est vous qui le dites,
oui.
Hein, celui de Clips.
Madame Polo. 16,000 square.
Vous entendez ça? Voilà un duo de rappeurs, deux frères qu'on n'avait pas entendus ensemble depuis presque 15 ans. Clips, ça ne ressemble à rien d'autre. La preuve, par le son. When I was born, grandmama could see it. I be Bentley driven and very strategic. RM sleeve, no diamonds are needed. Floors are heated, so be it, so be it. Fucking with P, get something to meet you. Your soul don't like your body, we help you free it. Then we wait for TMZ to leak it. It ain't no secret, so be it, so be it. So be it, ainsi soit-il. Difficile,
amen,
de vous dire qu'il n'y a pas de croyance là-dedans, mais oui, même s'il parle beaucoup de drogue. Let God sort them out, on va traduire par Dieu reconnaîtra les siens. Ce nouvel album de Clips est chargé de spiritualité. Les deux frères de Virginie, Pusha T et Malice, évoquent d'ailleurs l'au-delà dès le premier morceau qui parle de la mort de leurs parents. Gene Thornton, alias Malice, c'est l'aîné, est devenu un temps no Malice parce qu'il ne voulait avoir rien à faire avec le malin après sa conversion au christianisme. Kanye West avait réussi ce coup de force, réunir Clips, les deux frères donc, pour son album dédié à Jésus. Il a fallu cette fois-ci l'intervention de Pharrell Williams qui a produit pour Clips toute une cathédrale de sons. Parmi les étoffes anciennes, vous entendez là un sample venu d'un vinyle oriental des années 70, mais en bon créateur de mode, Pharrell dessine aussi des lignes plus synthétiques. Wanna show you around, but they Jay Princeton. Richards replaced all the pashas. Dior slice made of iguana. Stuff the walls for tomorrow. Fuck I look like trying to borrow. Blow a budget. Like fuck it. We gon' tuck it till it all falls down. Montre Pacha, Richard Mille ou Sandal Dior en iguane.
Déclinaison des signes du luxe et des péchés. All things considered, tout bien considéré. Le duo Clips, mu par la vengeance.
Et oui, le grand frère et le cadet le reconnaissent. Parmi les 7 péchés, bah, y a, voilà, les péchés capitaux. Ils ont des comptes à régler. Ils n'aiment pas les excès du show business et encore moins les infidélités. Pusha T claque quelques mots durs à l'attention de Travis Scott. Et dans une année marquée par la rivalité, vous savez, entre Drake, ouais, et Kendrick Lamar, c'est forcément le nom de ce dernier qui ressort dans une liste d'invités exceptionnels. Clips et Pharrell peuvent visiblement faire venir qui ils veulent. Nas, John Legend, Tyler the Creator et Kendrick. Donc, on va écouter ce morceau qui a été produit à Paris d'ailleurs, en France, dans les studios Vuitton de Pharrell Williams. Chains and Whips, des chaînes et des fouets, si ça vous réveille pas de bon matin. Clips sur France Inter.
Nigga and ice my bitch. Beat the system with chains and whips.
This is culturally inappropriate.
You run from the spirit of repossession. Too much enamel covers your necklace. I buy bitches, you buy them sections. You buy watches, I buy collections. Misery's fueling your aggression. Jealousy's turned into obsession. Reality TV is mud wrestling. Some sign checks I know better than. Beware of my name that there's delicate. You know I know where you're delicate. Crush you to pieces, I hum a breath of it. I will close your heaven for the hell of it. You think it'd be valor amongst veterans. I'm watching your fame escape relevance. We all in a room, but here's the elephant. You chasing a feature out of your element. And those lab diamonds under inspection. The question marks block your blessings. It's no tombstones in the desert. I know by now you get the message. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. It don't take much to put two and two. Your lucky streak is now losing you. Money's dried up like a cuticle. You're gasping for air now, it's beautiful. John 10:10, that's my usual. Mamas is falling out in funerals. Embalming bloke, they now few in you. They never find the guns, but the sewers do. Bubbles was sick, he need medicine. Brought him back to life, now he's dead again. Richard don't make watches for presidents. Just a million trapped between skeletons. This the darkest that I ever been. The diamonds make you taste peppermint. You ain't thriving the snow like it's the Revenant. And send orders back down to keep shoveling. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips.
You know I get calling. It looks side to side like what did they say? And they ignore his voice. And then you realize that the devil is talking to you.
I'm not the candidate to vibe with. I don't fuck with the kumbaya shit. All that talent.
Chains and Whips, rien de mieux pour se réveiller. Le duo Clips avec Kendrick Lamar à retrouver dans la playlist de France Inter. Et Mathieu, on vous retrouve vous à 21h pour d'autres nouveautés.
Et je remets le son ce soir. Je vous parlerai de Yanis, de Gorillaz, mais surtout de D'Angelo, le chanteur dont on a appris la mort cette semaine et qui laisse une discographie dense et sublime.
À ce soir. À 5h42, le grand reportage de France Inter dans les Ardennes ce matin. Depuis la mi-juillet, les habitants de 13 communes sont forcés de boire de l'eau en bouteille, car celle du robinet n'est plus potable. 3000 personnes sont concernées à cause de taux anormalement élevés de PFAS, les polluants éternels. Sandy Dauphin, vous vous êtes rendu dans le village de Villy qui bat des records de contamination.
Oui, à Villy, village tranquille des Ardennes, le quotidien a été chamboulé depuis que les analyses de l'eau du robinet ont montré des taux de PFAS jusqu'à 27 fois la norme.
Alors vous voyez ici ce geste de tourner le robinet pour de l'eau, elle n'est plus potable du fait des analyses pour les PFAS.
On s'en sert si pour faire cuire des pâtes, du riz, tout ce que vous voulez, laver les légumes, mais pas boire.
Le maire de Villy, Richard Filbiche, doit donc fournir de l'eau en bouteille aux habitants, une logistique et une dépense importante pour la commune.
200 habitants, ça fait 400 litres par jour. Déjà, il faut les stocker. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas distribuer de l'eau. Donc, tout le monde a rempli ce coupon qu'on a mis dans les boîtes aux lettres et ils nous joignent un RIB. Et après, on rembourse donc 2 litres d'eau par personne et par jour. Ça fait 9000 euros pour 6 mois. On ne pourra pas continuer comme ça sans 7 ans, c'est pas possible. La mairie, elle saute.
À quelques mètres de la mairie, Sophie, la doyenne du village, nous ouvre sa porte.
J'ai toujours bu l'eau du robinet. C'est ma fille qui m'a apporté des packs d'eau.
Elle veut pas que tu t'intoxiques.
Ben oui, mais
ce jour-là, un voisin est passé lui rendre visite. Il s'inquiète de la situation. Le village était connu pour son ouvrage de la ligne Maginot. Les PFAS, c'est un coup de pub dont il se serait bien passé.
C'est une catastrophe, puisqu'apparemment, l'eau du captage n'est plus traitable ou plus sauvable. C'est un tsunami. Mais vous vous dites que vos enfants pourront parvenir ici, que que ça va déprécier l'immobilier et que ça fera un désert public, quoi. Il n'y aura plus personne.
Il y a trop de PFAS dans la source qui alimente la commune de Villy pour espérer dépolluer. La solution envisagée pour l'instant est de se raccorder au réseau d'eau d'une autre commune.
Et elle vient d'où cette pollution aux PFAS, Sandy ?
Alors, il n'y a pas de certitude, mais une hypothèse est privilégiée. Le captage d'eau aurait été pollué par l'épandage de boue d'une ancienne papeterie sur des parcelles agricoles toutes proches. Une pratique courante pour éliminer les résidus industriels depuis des décennies. En contrepartie, c'était un fertilisant gratuit pour les agriculteurs.
L'agriculture a servi de poubelle à l'industrie, hein, faut le savoir, hein. C'est pas d'aujourd'hui.
Étienne Malcuit ne décolère pas, il est agriculteur, c'est aussi le maire de La Ferté, la commune voisine de Villy, elle aussi touchée par une interdiction de boire l'eau du robinet.
On se sent bien seul, à mon avis, les premiers responsables, c'est quand même un peu les services de l'État. Hein. S'ils avaient fait des suivis et nous avaient informés à ces moments-là, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Hein. Parce que regardez ici, on est en zone, on est en prairie, on est en zone inondable. L'eau que vous avez des sources polluées, se retrouve dans la chière. La chière, l'hiver, qu'est-ce qu'elle fait ?
La rivière.
Elle déborde. À mon avis, dans les sols, il y en a partout.
Bon, allez, je bouge la charrette. Je la mets où ? Devant ta maison ?
Pour ne pas risquer d'aggraver le problème, la préfecture des Ardennes applique le principe de précaution. Les épandages de boues industrielles près des aires de captage d'eau sont suspendus. Quant au retour à la normale dans les 13 communes privées d'eau potable, il va falloir des solutions au cas par cas, explique Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture.
Les systèmes qui, avec des charbons actifs, permettent de filtrer l'eau, a priori, d'après ce qu'on nous dit, ça ne peut pas être le cas quand les taux de contamination dépassent un certain taux. Les deux autres possibilités sont soit la recherche de ressources nouvelles, pas forcément évident, ou l'interconnexion avec une ressource actuelle. Évidemment, tout ceci nécessite des financements.
Des financements et du temps. Il faudra plusieurs mois, voire pour certaines communes, 1 ou 2 ans avant de pouvoir de nouveau boire l'eau du robinet.
PFAS ou la vie sans boire l'eau du robinet, c'était le grand reportage de Sandy Dauphin. Il est 5h45.
France Inter. Marion Lourd. 5-6.
Et c'est l'heure de contacter notre invitée, déjà debout, aidante de son neveu et de sa mère à Paris. Bonjour Esther Rosenberg.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout à cette heure matinale ?
Alors, me lever tôt, c'est la seule façon de tout concilier. Je prends un petit moment pour me préparer et puis j'organise tout ce que je peux avant de réveiller mon neveu. Voilà, j'organise ses affaires, son petit déjeuner, son repas de midi que je prépare et que je dois lui donner dans une glacière pour qu'il prenne à l'école. Mmh. Et voilà, donc je me lève tôt le matin parce que mes journées sont souvent bien remplies et donc j'essaye de faire ce que je peux avant que tout le monde se réveille.
Parce que vous aidez deux personnes en fait. Il y a votre neveu dont vous parliez qui a 14 ans, qui a été greffé du cœur, et il y a votre mère qui a perdu son autonomie.
Exactement. Donc, je suis aidante depuis de nombreuses années, donc aidante de ma mère qui est atteinte de plusieurs pathologies, qui a, comme vous dites, aujourd'hui perdu toute son autonomie, ce qui veut dire qu'elle a besoin d'être accompagnée pour tous les gestes du quotidien, se lever, se laver, s'habiller, manger, enfin tout.
Oui.
Elle vit toujours à son domicile parce que aucune structure adaptée ne peut l'accueillir. Et donc, elle est entourée d'auxiliaires de vie, de professionnels de santé, d'infirmiers, de kinés, etc. Et tout ça, il faut le coordonner.
Votre travail.
Exactement. Je dois organiser les plannings, m'assurer qu'il manque rien chez elle. Je ne sais pas, les protections, les médicaments, la nourriture, les produits d'hygiène, enfin tout.
Alors, il faut dire aussi que vous avez une profession, vous êtes cadre dans une société qui vend du consommable médical.
Exactement.
À cela s'ajoute ce rôle d'aidant. Est-ce que c'est fatigant un peu ?
Alors, c'est une vie, c'est une vie exigeante, parfois épuisante, mais c'est aussi une vie humaine.
Ça vous apporte quelque chose ?
Oui, être aidante, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris la patience, ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris la réactivité. Il faut souvent réagir vite, une auxiliaire qui vient pas, un rendez-vous médical à déplacer, un transport qui n'est pas là. Donc voilà, c'est pas une contrainte, c'est une façon de prendre soin de ceux que j'aime et de faire en sorte que malgré toutes les difficultés, leur journée soit sereine, plus sereine en tout cas.
Ouais, vous avez été accompagnée pour ça par des associations notamment.
Tout à fait. Alors l'association principale qui m'a aidée, c'est l'association Saphir. Mmh. J'ai été accompagnée dans plusieurs domaines. D'abord pour me donner des astuces, parce que moi je ne connaissais rien à tout ça. Le monde du handicap vieillissant, et je connaissais pas, donc j'ai appris sur le tas. Et oui, ils m'ont beaucoup aidée. Donc d'abord, comme je disais, pour me donner des astuces, et ensuite aussi, je suis curatrice de ma mère, et donc ils ont des personnes qui accompagnent pour expliquer comment il faut faire. C'est pas très intéressant de vous donner les détails, mais en tout cas, voilà, à nouveau, c'est quelque chose que je connaissais pas, et il fallait qu'on m'explique comment il fallait présenter les choses au juge des tutelles.
Ouais. Et vous, en fait, vous êtes accompagné, vous avez été accompagné effectivement par des associations. En revanche, l'État est un peu le grand absent de tout ça, non ?
Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, attristant et même gênant, parce que j'estime que voilà, les personnes handicapées ou les personnes vieillissantes sont des personnes comme tout le monde.
Bien sûr.
Et voilà, je suis. On n'est pas aidé dans notre rôle d'aidant.
On n'aide pas les aidants.
Non, on n'aide pas les aidants, ni on n'est pas soutenu dans notre rôle, on n'est pas reconnu dans notre rôle. Donc, moi, j'ai toujours rencontré des problèmes là où je devais faire des choses pour ma mère ou pour mon neveu. J'ai jamais été reconnue en tant qu'aidante. C'est très compliqué. Il faut tout le temps se battre. Et d'un autre côté, voilà, il y a toute l'autre partie de reconnaissance par l'État. On n'a rien. On a le congé d'aidant qui est très mal rémunéré, et c'est 60 jours par an. Et il y a rien d'autre. Donc ça, c'est très compliqué. Je trouve ça vraiment injuste.
Eh ben, on entend votre appel à l'État, éventuellement, si un ministre, si un député vous entend. Merci Esther Rosenberg, aidante à Paris. Donc merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin sur France Inter. Bonne journée. Il est 5h51 sur France Inter. Juste avant le Café Philo, une bonne rasade d'amour au petit matin. Charles Aznavour, Parce que tu crois.
Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie. Et jour et nuit, parce que tu crois être ma raison d'être, tu fais naître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur qui vit dans mon cœur. Un jour peut venir, demain peut-être, ou bien dans l'avenir. Ou qui sait, mon Dieu, le destin viendra pour brouiller les jeux. Tout ce que tu crois être à toi sans réserve, comme un rêve au matin, peu brisant ta loi, laisser tes yeux humides et le vide dans tes mains. Parce que tu crois que je suis un esclave, une épave de l'amour, tu puises tes joies et tu forges tes armes dans les larmes sans secours de mon cœur lourd. Parce que tu crois que je fus mis
mène au pas sans faire sacrifice d'un caprice, d'une idée.
Parce que tu crois, de Charles Aznavour, titre issu de son album La Bohème, sorti en 66. Charles Aznavour qui nous a quittés en 2018.
France Inter. Le 5-6.
Mais quelle surprise, Patricia Martin, vous surgissez devant moi, il faut dire que c'est l'heure de Café Philo.
Ben oui, ma chère Marion, je voulais vous réserver la surprise d'une arrivée in extremis.
Ouf.
Mais au fait, j'ai une question à vous poser. Aimez-vous les surprises ?
Ben oui, plutôt quand elles sont bonnes.
Bon, alors il y a des personnes qui adorent et il y a d'autres qui détestent ça. Savez-vous que les philosophes, en tout cas une bonne poignée, n'aiment pas les surprises, tout au moins la surprise en tant que sujet, au point qu'ils lui tournent autour, s'en détournent ou l'ignorent tout simplement. À lire le livre de Nathalie Deprat, qui sera ce soir notre invitée, la surprise est une ouverture du cœur. Elle nous assouplit, elle nous transforme, à condition que nous sachions l'accueillir.
Alors, il y a les bonnes et les mauvaises surprises qui sont plus difficiles à encaisser.
C'est vrai, mais il y a toujours cet effet de surgissement, hein, de quelque chose d'autre dans une existence, quelque chose ou quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que la surprise a à voir avec l'altérité. Et qui dit altérité peut penser hospitalité. Jacques Derrida.
Il y a toujours entre l'hospitalité et l'improvisation, qui est notre situation à l'instant, une affinité essentielle. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité. L'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours, justement, impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire l'impossible. Et dans tous les textes auxquels vous faites allusion, il y a ce souci à la fois de penser ou d'endurer une limite, par exemple celle de l'hospitalité, et de penser un impossible qui est néanmoins désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom à la limite, hein, sans parler de son passeport et de ses papiers, hein, le laisser non seulement entrer mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible à différents lieux de l'impossible. Mais en tout cas, cette hospitalité pure, inconditionnelle, est impossible.
La surprise qui bouleverse, la divine surprise de votre présence, Patricia Martin. Nathalie Depraz, invitée de l'heure philo ce soir pour son essai intitulé donc « La surprise », publié au Seuil. Et Valérie Zenati qui publie chez Autrement un livre intitulé, lui aussi, La surprise ! Point d'exclamation. J'espère qu'on entend le point d'exclamation. Pour Nathalie Depraz, il s'agit d'une crise dans la pensée. Et pour Valérie Zenati, une innocence renouvelée. Elles en parleront ce soir avec vous, Patricia Martin.
Dans leur philo.
Dans leur philo. À ce soir, à quelle heure ?
À 20h10.
Et ben voilà.
Salut, petites oreilles.
Il était une fois...
Mon petit France Inter.
Découvre Mon petit France Inter, la nouvelle radio rien que pour toi.
Allez,
une ribambelle d'histoire toute la journée.
Le trésor de Rackham le Rouge est à nous.
Adieu, plancher des vaches, c'est parti.
C'est aussi l'histoire d'un
haricot magique.
Et ta musique préférée.
Laisse-moi te chanter.
Écoute Mon petit France Inter, ta radio sans publicité.
Et embarque pour une journée pleine d'aventures et de découvertes.
Mon petit France Inter.
Nous, au moins, vos enfants nous écoutent.
5h58 sur France Inter. Voici venir Stéphanie Fromentin.
La météo avec TGV Inouï. À
Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Stéphanie, c'est vous notre Madame Météo aujourd'hui.
Oui. Bonjour Marion.
C'est vrai que c'est pas l'automne partout ?
Mais non, c'est pas l'automne partout.
Mais non, la journée est calme.
Bah, très, avec pas d'intempéries en vue, mais des grisailles au réveil, de la Normandie au Grand Est en passant par les Hauts-de-France, ainsi que sur les régions centrales, où les brouillards sont même un peu plus fréquents qu'au nord. Le sud aura sa part de gris, avec quelques nuages bas qui traînent du Roussillon à l'Aude, localement jusqu'au Midi Toulousain et du côté du Pays Basque, partout ailleurs. Le soleil est déjà bien présent. Voilà, voilà. Cet après-midi, ça évolue favorablement. Même si le soleil tarde à percer du côté de certaines vallées auvergnates, du Val de Saône et du Genevois, le Nord-Pas-de-Calais a aussi beaucoup de mal à se débarrasser des nuages, même sur les côtes de la Manche. Les nuages pourront même se développer et développer quelques averses sur les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, voire sur le sud de la Corse.
Et partout ailleurs, le soleil est généreux.
Le soleil est généreux, mais le réveil est frais, avec des températures qui continuent de baisser. Il ne fait que 3 à 9 degrés dans l'intérieur du pays du nord au sud, 10 à 15 en bord de mer. Cet après-midi, ça reste raisonnablement de saison, voire un petit peu au-dessus des moyennes sous le soleil.